Raison gardée sur RCN avec la libre pensée de Meurthe et Moselle.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission Raison gardée. Aujourd'hui avec moi l'ami Charles, bonjour Charles.
Bonjour Sylvie, bonjour Jean-Claude.
Et Jean-Claude.
Salut.
Et... première émission de l'année pour nous. Alors, on vous présente tous nos vœux, une année qui commence... un peu difficilement, oui, on n'est pas très sûr, là, vu d'ici, que tous les problèmes des années passées se résolvent rapidement. Alors, on va aujourd'hui parler un petit peu, comme la dernière fois, d'informations locales, d'informations plus nationales françaises. Et puis, on parlera aussi comment faire autrement nouveau, entre guillemets, président des États-Unis. Toujours sous l'angle, bien sûr, des thèmes qui sont traités par l'association de la libre pensée, la question des libertés, de la liberté de conscience, de l'antimilitarisme, des lumières, de la faculté critique, etc. Et on aura aussi l'occasion de parler aujourd'hui des luttes pour la fin de vie, des luttes pour les droits des femmes, voilà un peu tous les débats tous les combats qui s'ouvrent encore pour nous cette année. Et puis nous parlerons d'un mot qu'on a encore beaucoup entendu à cause de Trump, justement, qui est le mot woke, et la question du wokisme, qu'est-ce que c'est. Et puis puisque nous ouvrons aujourd'hui une nouvelle année 2025, c'est l'année des 120 ans de la loi dite de 1905, en fait la loi de séparation des églises et de l'État. Et donc tout au long de l'année dans Raison gardée, on gardera toujours du temps, plus ou moins selon l'actualité, pour rappeler des petites choses sur cette loi, ceux qui l'ont portée, ceux qui l'ont modifiée, les raisons pour lesquelles elle a pu être modifiée, les raisons pour lesquelles elle est parfois mise en débat, et puis quelques conseils de lecture pour ce que le sujet intéresse. Allez, on commence avec un petit peu d'informations locales. Nous en avions parlé à la précédente émission. Non loin de notre métropole de Nancy, à Toul, une statue a été érigée en l'honneur du général Bijard, certes un peu résistant pendant la Seconde Guerre mondiale, mais surtout connu pour avoir enseigné, sinon pratiqué, la torture en Indochine et surtout en Algérie au moment de la bataille d'Alger. Après avoir combattu contre l'installation de cette statue, le collectif qui s'était formé, accompagné par beaucoup d'associations, de partis et de syndicats, et notamment la Ligue des droits de l'homme, avait organisé la semaine dernière une manifestation pour demander que la statue soit enlevée et pour porter haut et fort le combat contre le colonialisme, le racisme sur lequel il se fonde. Et c'était une belle réussite. Bravo aux organisateurs. 250 personnes environ, malgré le froid, malgré la date qui n'était pas évidente, avec des prises de parole au fur et à mesure de ce rassemblement, par aussi des associations d'amitié franco-algérienne. Le témoignage aussi d'un monsieur qui a grandi en Algérie et qui se souvenait des cris des personnes torturées qui l'entendaient le soir venu à côté de chez lui. Les témoignages extrêmement forts. Le combat continue. Et ce collectif a d'ailleurs invité un comédien à venir à Toul mardi prochain, mardi 28 janvier. Rendez-vous à 19h45 au cinéma de Toul, au Citéa. C'est un spectacle qui s'appelle La France, Empire comme l'Empire, sous-entendu colonial. Et c'est une pièce, un seul en scène, qui est à la fois divertissant et tout à fait éducatif. Alors vraiment pour 5 euros, en plus l'entrée, vraiment pas de raison d'hésiter. On vous attend nombreux dans cette salle, donc je répète, mardi 28 janvier à 19h45, dans la salle de cinéma Le Citéa à Toul, salle, alors ironie, prêté volontiers par la mairie, qui est cette même mairie qui a accepté d'installer la statue de Bigeard dans l'espace public.
Dont le parti du maire était absent. Il paraît qu'il est de gauche.
Oui, c'est vrai qu'au rassemblement, il manquait de façon assez évidente un parti de gauche, oui. C'est vrai, mais les autres étaient là. Donc voilà, ça c'était la première chose. Et puisqu'on parle de militaires, en ce début d'année, peut-être quand même une bonne nouvelle. On a cru comprendre que le service national universel allait disparaître, sans doute. Alors je rappelle qu'on en a beaucoup parlé, nous, dans Raison Gardée, avec les copains du collectif, et aussi sur RCN, dans l'émission Parole de paix, que prennent en charge les copains, notamment du mouvement
WOC.
Pour l'action non violente et le mouvement de l'objection de conscience. Et la LDH aussi fait partie des animateur de cette émission. On en avait beaucoup parlé. Est-ce que ce service national universel, c'était vraiment la petite idée du président Macron dès son premier mandat. Son objectif, c'était d'imposer à tous les jeunes lycéens 15 jours de cohésion nationale, hein, 15 jours pour transformer le jeune en petit citoyen. Un séjour de cohésion qu'on nous a présenté comme étant nourri d'un programme culturel, permettant une mixité sociale savamment orchestrée par les concepteurs de ce service national universel. On a quand même assez vite compris que ces 15 jours de cohésion étaient encadrés par l'armée, qu'il fallait se lever et saluer le drapeau tous les matins, chanter la Marseillaise, etc. Enfin bref, qu'il y avait quand même quelque chose qui était très très militaire. Et on avait observé dans les précédents discours de vœux du président à ses armées qu'il évoquait le service national universel comme étant le moyen vraiment de venir nourrir les troupes, grâce à l'identification pendant ce service national universel de personnes, de jeunes qui pouvaient être intéressés par une carrière militaire. Alors, à la Libre Pensée, on avait dénoncé ce service national universel. Oui, Charles.
Alors, c'est vrai que c'est une bonne nouvelle, mais une bonne nouvelle engendre une mauvaise. C'est-à-dire que dans l'étude du nouveau budget pour 2025, le seul budget qui va augmenter, c'est celui de l'armée.
Et oui.
Donc, c'est une bonne
parce que,
qui en pousse une nouvelle mauvaise, quoi.
Oui, il y en a quand même une autre mauvaise. Oui, bien sûr, dans ce discours de vœux cette année. Alors, le président Macron a manifestement reculé sur le SNU, mais effectivement, il ne renonce pas à augmenter le budget de l'armée. En revanche, la Cour des comptes avait déjà épinglé le service national universel parce qu'il coûtait énormément d'argent. Alors, dans le projet de loi de finances de 2025, on était pour le SNU à hauteur de 100, alors, d'après ce que j'ai lu dans la presse, 128 millions d'euros. C'est quand même très conséquent pour mettre toute une génération au pas. Puis surtout, la Cour des comptes avait observé que les jeunes qui s'inscrivaient de manière volontaire, puisque là, depuis quelques années, l'idée, c'était que les jeunes y aillent volontairement, étaient quand même tous statistiquement liés à l'armée, à la police, à la gendarmerie ou au monde des fonctionnaires de l'enseignement par leurs parents. Et donc, en fait, ça ne motivait pas les jeunes qui veulent s'engager, mais pas forcément de cette manière-là. Les jeunes savent s'engager dans des causes associatives menées par des associations, ça on le sait bien. Et donc, la Cour des comptes avait pointé ces financements tout à fait discutables et il serait question de réorienter une partie de cette somme vers le sport, qui devrait souffrir aussi des coupes budgétaires par ailleurs. Donc c'est sûr que quand ils prennent d'un côté, quand ils ont l'air de donner d'un côté, ils reprennent de l'autre. Là, je crois que c'est un petit peu comme ça que les choses se passent en ce moment. Oui,
je crois que le budget des SNU a été pris aussi sur le budget de l'éducation nationale.
Oui, oui, oui.
Donc c'est d'argent qui échappait aussi à l'éducation nationale, qui en a bien besoin. Un autre problème, c'est que ces jeunes qui étaient en stage de dressage échappaient aux cours et perdaient des cours.
Oui, oui, il y avait tout ça qui encadrait. Il y a eu des tas de problèmes avec l'encadrement. Il y a eu des encadrants qui ont agressé sexuellement des jeunes. Enfin, il y a vraiment eu toute une série d'affaires dramatiques qui ont été sorties par la presse. Oui, c'était vraiment pas préparé, pas financé, puis pas pertinent. Enfin, dire la mixité sociale, elle se fait peut-être déjà avec une vraie carte scolaire bien pensée et respectée par tous, sans aucun doute.
Et donner les moyens à l'école publique d'accepter tout le monde.
Mmh. Ah oui.
On aura certainement des débats là-dessus, parce qu'on est tous ici, on le sait, antimilitaristes, en tout cas militants pour la paix. Mais il y a une nouvelle donne quand même. Et ça, ça devient très inquiétant. Et notamment quand Trump dit « Démerdez-vous l'Europe, là. Si vous avez des emmerdes, c'est pas nous qui viendrons. » Ça pose le problème des crédits militaires, et notamment au niveau européen. Parce que moi, j'ai appris hier que l'Europe avait mis, je crois, 200 milliards ou plus même de crédits pour les 10 ans à venir sur les armes, par exemple.
Mmh. Enfin, la façon dont Trump envisage les choses permet aussi de réinterroger l'OTAN.
Bien sûr.
Voilà, de réinterroger tout ce système d'alliance militaire qu'on connaissait jusque-là et qui a toujours été sujet à controverse. Mais là, effectivement, quelqu'un d'aussi dangereux que Donald Trump doit nous conduire à une réflexion très, très mesurée et très sensée là-dessus. Allez, je vous propose une première pause déjà dans notre émission, puisqu'on parlait de l'armée. Ça m'a fait penser à cette chanson de Jacques Brel que j'aime bien, qui est le caporal Casse-Pompon.
Mon ami est un type énorme. Il aime la trompette et le clairon, tout en préférant le clairon, qui est une trompette en uniforme. Mon ami est une valeur sûre. Il dit souvent, sans prétention, qu'à la minceur des épluchures, on voit la grandeur des nations. Subséquemment, 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 que je comprends pas pourquoi souvent ses compagnons l'appellent caporal Casse-Pompon. Mon ami est un doux poète. Dans son jardin, quand vient l'été, faut le voir planter ses mitraillettes ou bien creuser ses petites tranchées. Mon ami est un homme plein d'humour. C'est lui qui a trouvé ce bon mot que je vous raconte à mon tour. Ich schlafe nazi hose und brillen so. Comment que je comprends pas pourquoi souvent ses compagnons l'appellent caporal Casse-Pompon. Mon ami est un doux rêveur. Pour lui, Paris, c'est une caserne, et Berlin, un petit champ de fleurs qui va de Moscou à l'Auvergne. Son rêve, revoir Paris au printemps, redéfiler à la tête de son groupe en chantant comme tous les 25 ans. Best again, Gretchen, que je baisse la groupe, I'm sway. Soupçonnons que nous ne comprenons comment nos amis les Françoisen, ils osent l'appeler caporal Casse-Pompon Heinsway.
Oui, le caporal Casse-Pompon de Jacques Brel. Avec un petit peu d'allemand dedans, ça fait penser à un autre thème dont on parlera tout à l'heure, de néo-fascisme, de la nouvelle extrême droite qui monte. Avant qu'on en parle justement, Charles, ce matin, tu as attiré mon attention sur des articles, sur un autre thème qu'on a souvent traité dans Raison Gardée avec nos camarades d'Ultime Liberté, qui est la question de la fin de vie. Et donc ça fait partie de ces sujets qui un jour sont mis sur le devant de la scène et puis disparaissent dès que l'actualité pousse un autre sujet dans les médias, ou plutôt que les médias poussent ce sujet. Mais nous, on attend beaucoup une évolution de la loi sur cette question de la fin de vie. Alors est-ce qu'avec ce gouvernement Bayrou, Jean-Claude, on peut espérer enfin cette loi, l'évolution de la loi?
Moi, je pense, contrairement à ce que certains disent, je pense qu'on aura une loi. Le problème, ça sera une loi, je sais qu'il ne faut pas utiliser ces mots-là, mais une loi de merde quand même. Parce qu'on est en retard, on est la lanterne rouge, en Europe notamment, et on va continuer à l'être. Quand Bayrou, on sait que Bayrou, il est hostile à cette loi. Il dit, il y a un moment, il avait dit, il ne faut pas ouvrir la boîte de Pandore, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Il y a une telle pression, y compris quand même maintenant, des parlementaires, il y aura effectivement, on voit même, comment elle s'appelle, Brune Pivet, qui dit qu'il faut y aller. Bon. Donc ça veut dire qu'à un moment, ils seront forcés, ils n'auront pas le choix. Mais ils vont, une fois de plus, nous faire une loi qui sera un peu la continuité de la loi de 2005-2010, c'est-à-dire qui n'ouvrira pas un véritable droit à disposer de sa vie. Et ça, c'est une évidence. C'est pour ça que je disais, il n'y a pas longtemps ici, notre petit commerce, en parlant d'ultime liberté, de l'avenir, parce qu'on va être, on va continuer à assurer aux gens qu'ils le demanderont une fin de vie telle qu'ils la conçoivent. Mais moi, je pense qu'on aura une loi, même, peut-être même plus restrictive que la loi belge, alors que la loi belge n'est quand même pas... Alors, elle a le mérite d'exister depuis bientôt 20 ans. 23 ans. Elle est de 2002. Mais on n'aura pas une loi satisfaisante. Les déclarations de Bayrou sont claires complètement. Et puis alors, quand vous entendez Retailleau et les autres, ils sont vent debout. Il y a encore toute cette nébuleuse Cato qui est derrière et qui rame, et d'extrême droite, n'oublions pas, qui rame contre le vote d'une loi qui soit une loi un peu satisfaisante.
Déjà, ils veulent saucissonner la loi. On n'a jamais dit qu'on était contre les lois, contre les soins palliatifs. Et justement, donc ils veulent faire deux lois. Je ne comprends pas ce que ça veut dire, moi, deux lois sur la fin de vie. Les soins palliatifs, tout le monde devrait pouvoir y avoir accès sans problème, comme on devrait avoir accès à la santé gratuitement aussi. Le problème, c'est la tarte à la crème des anti-fin de vie, comme nous on l'entend, c'est-à-dire de la totale liberté de choisir sa fin de vie. Et c'est... C'est une façon de faire un deuxième débat qui n'a pas lieu. Le débat qu'il doit y avoir, c'est que l'hôpital doit déjà avoir un service. Tous les hôpitaux devraient avoir un service digne de ce nom au niveau de la fin de vie. Ça n'existe pas. En France, il y a plein de départements qui n'ont pas de personnel surtout. Donc, il n'y a pas de lit forcément. Le problème des lits, c'est qu'il n'y a pas assez de personnel formé pour accompagner les personnes en fin de vie qui ne veulent pas... utiliser autre chose que leur mort naturelle, s'ils veulent. Mais qu'on laisse aussi... c'est un faux débat que lance encore Bayrou. Oui, il faut revenir aussi à Retailleau. Il ne faut pas oublier que Retailleau, il était à la manif pour tous. Mm-hmm. C'est des gens qui sont d'un passéisme épouvantable. Il faut encore pire que le pape.
Charles, en ce qui concerne les soins palliatifs, d'abord, on a toujours dit, nous, qu'on était pour les soins palliatifs, il faut être clair.
Bien sûr.
Mais ce n'est pas un hasard. C'est une façon de noyer le poisson, c'est ce que tu disais. On va nous resservir encore un truc du genre les lits dédiés, par exemple. Ça fait longtemps. Depuis 20 ans, on nous dit, on va faire des plans de renforcement, on les attend toujours. On nous dit, on crée des lits qui sont dédiés. Mais un lit, ce n'est pas un matelas... Un sommier, c'est derrière des infirmières, des médecins. Et ça, on sait qu'on ne les aura pas. Il faut arrêter. Donc, c'est une façon de mentir une fois de plus et de faire passer probablement une loi qui sera une loi à l'eau tiède. C'est tout.
Si jamais elle est remise en discussion. Pour le moment,
elle le sera, tu verras.
Mais la présidente de l'Assemblée nationale est obligée d'aller dans le sens de son président, puisque Macron, c'est lui qui a voulu le débat quand même. Il y a quand même eu la convention sur la fin de vie. C'est quand même eux qui l'ont mis en route. Donc elle est obligée un petit peu, quelque part, de défendre entre guillemets, ce projet.
Attention, Charles, rappelle-toi que quand Macron est revenu du Vatican, dans l'avion, il expliquait « Ah ouais, maintenant, je me pose quand même des questions », après avoir dit qu'il était pour. Donc, on sait très bien que c'est pas aussi simple que ça de son côté aussi.
Hein. Et puis, il ne s'est jamais caché d'être catholique pratiquant non plus. Enfin, on sait bien que les freins, ils sont quand même là, dans une grande partie de la classe des politiques et au sein des deux assemblées. L'Assemblée nationale comme le Sénat, en fait, qui a des convictions personnelles qui empêchent une discussion rationnelle, précise sur ce sujet.
Alors qu'ils sont hyper minoritaires. Quand on interroge les Français, 90% pratiquement sont pour une fin de vie digne. Après, c'est vrai que là, il faut quand même mettre ce qu'il faut dedans. C'est un vaste mot, digne. Qu'est-ce que ça veut dire de mourir dignement, hein. Voilà, mais c'est-à-dire que les personnes qui ne veulent pas subir les souffrances ou qui veulent mettre fin, même avant. Je vois pas pourquoi les riches, ils ont le droit, eux. Quand on voit, pour se faire euthanasier.
Ils n'ont même pas besoin d'aller en Suisse. T'inquiète pas. Mitterrand, il n'est pas allé en Suisse.
Qui ça?
Mitterrand, il a été aidé.
Bien que ça se pratique à l'hôpital. Mais je veux dire, c'est quand même un peu comme l'avortement, quoi. Il y a que ceux qui ont les moyens.
Tu l'affirmes, il a été aidé.
Oui, c'est clair. Enfin, je crois que tout le monde l'a compris, ça.
Je repasse le cinéaste suisse en flûte sur son nom.
Godard.
Godard, qui a lui, il a dit moi j'en ai marre. Il n'était pas en fin de vie. Hein. Il dit j'en ai marre, je vais arrêter. Bah, on lui a permis d'avoir le dernier soin. Parce que pour moi, c'est un soin.
Et il faudrait proposer aux auditeurs qui nous entendent le film d'Almodovar. Déjà, c'est un Almodovar. Oui. Mais en plus, c'est un film qui est en plus pas larmoyant du tout. Qui est vraiment très intéressant, qui pose bien le problème. Et surtout à la
chambre
fin,
d'à côté.
La chambre d'à côté. Et à la fin, c'est intéressant parce que la personne qui est dans la chambre dite d'à côté, en fait, elle est dans la chambre du dessous, peu importe, dans le film. Mais elle est arrêtée. Elle est interrogée par des flics américains, dont un est manifestement, idéologiquement, complètement contre l'aide au suicide, et qui lui dit « Vous allez avoir des ennuis ». Ils veulent lui faire avouer qu'elle l'a aidé concrètement. C'est une situation. Ce film est passionnant pour ça.
Ouais, il faut voir. Les dialogues sont ciselés. C'est vraiment super. Alors, il y a un côté qui peut être. Ça se passe dans un milieu très intellectuel, quand même. Très confortable. Voilà. Mmh. Alors, il y en a qui ont dit, voilà comment on peut mourir chez les riches.
Mais bon. Oui, c'est vrai que... Alors, très souvent, alors, est-ce que c'est pour pouvoir concentrer l'attention sur le problème lui-même?
Oui, moi, je crois que c'est le but d'Almodovar.
Tous les autres problèmes...
Et puis, au passage, Almodovar, il ne nous avait pas habitués à ça. Il fait un petit couplet sur la défense de l'environnement qui est pas mal à la fin.
D'accord. Il y a plusieurs sujets qui sont traités là-dedans.
Ne divulgâchez pas tout.
Oui, il ne faut pas...
Je ne l'ai pas encore vu, arrêtez. Je vous demande de vous arrêter, mais vous m'avez donné envie. Voilà. Bravo. Donc, cinéma, Almodovar, la chambre d'à côté. Ok, bon, on va surveiller alors ce que fait notre gouvernement, est-ce qu'il remet le sujet sur le tapis, comment aussi, parce que j'ai cru lire par un article que tu m'as donné, Charles, que la question c'était aussi la forme que prenaient les choses. Est-ce que ça allait être un projet de loi du gouvernement ou un projet de loi porté par l'Assemblée, ce qui change le temps de délibération, la proposition de loi, voilà, ce qui change le temps de la délibération, le fait de séparer les deux, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien?
Si c'est une proposition de loi,
et fin de vie.
Si c'est une proposition de loi, on va avoir le même cirque que la première fois, des milliers d'amendements, et comme c'est un temps très court, eh ben ils pourront pas décider. Il faut que ça soit un projet de loi, là, c'est clair.
On demandera un 49-3.
Ouais.
Bien. Alors, on a parlé un petit peu tout à l'heure, on part vers les États-Unis qui ont remis au pouvoir Trump, une grande partie quand même, hein, il a été largement élu, enfin, c'est aussi parce que peut-être l'électorat de Kamala Harris ne s'est pas assez mobilisé, si on regarde dans le détail, il n'a pas tellement augmenté que cela. Tu me montres un article, Charles, dont le titre est « De Le Pen à Trump, d'un fascisme à l'autre ». Oui, on n'a pas rappelé que Marie Le Pen était décédée au moment où nous enregistrons, mais effectivement, ça pose beaucoup de questions. Alors, Trump qui a invité pour son installation au pouvoir officiel, toute la dream team des néo-fachos, néo-nazis de l'extrême droite.
Même européen.
Internationale et européenne. Et,
et français.
Et français. Ouais. Qui nous a représenté
Marion Maréchal, Le Pen.
Ouais.
Eh oui, c'est difficile à croire. Et pourtant, voilà, on en est là. Alors, c'est bien plus grave que ce que j'ai vu aussi sur les réseaux, l'histoire de Trump qui prête serment sur la Bible ou pas, parce qu'il paraît qu'il n'a pas bien posé la main, etc. Bon, ça, c'est une discussion qu'on entend à chaque fois sur le fait que les présidents américains ont un discours très, très religieux. Chez Trump, rien de nouveau. Hein. On se souvient de la façon dont il a utilisé l'attentat dont il a été la cible en laissant entendre qu'il était élu par Dieu, protégé de Dieu, etc. Donc voilà, l'histoire de la Bible au moment du serment, c'est complètement anecdotique. On sait que profondément dans cette idéologie suprémaciste blanche qui est la sienne, il y a une donnée religieuse extrêmement forte. Et Jean-Claude, tu nous avais suggéré l'autre jour de parler de quelque chose dont Trump a énormément parlé pendant sa campagne. Il en a reparlé là lors de ses multiples fêtes lundi 20 janvier et puis au moment des signatures des différents décrets. C'était qu'il allait mettre fin au wokisme, au woke. Donc avec cette idée qu'avec lui, c'était dans son esprit, un peu le bon sens, la vérité vraie qui enfin allait émerger, la possibilité de dire des choses avec ce cliché. On ne peut plus rien dire, on veut nous empêcher de parler, on détruit notre histoire, etc. Voilà, il a un petit peu tout ce discours-là. Et il se pose en défenseur d'une parole qui pourra enfin être libérée et dire des vérités, dire ses vérités, sans doute, et peut-être pas la vérité ni des vérités. Alors, est-ce qu'on peut rappeler peut-être ce que c'est que le wokisme ?
Il faudrait en donner une définition. On rappelle souvent la phrase de Camus, « Mal nommer les objets, d'ailleurs, pour les choses, c'est ajouter au malheur du monde », et là, c'est vrai. Mais tu disais qu'il en avait beaucoup parlé pendant sa campagne, certes, mais le jour de son investiture, il fait une déclaration fracassante là-dessus. Nous allons combattre le wokisme. Et ça, on sait à quoi ça renvoie. Alors, c'est marrant parce que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Quand on entend Trump, certains se posent des questions en disant « Bah oui, effectivement, on a peut-être un peu dérivé, etc. » Il faut savoir que le wokisme dont parle Trump, c'est pas du tout le wokisme d'origine dont parlait Martin Luther King. Parce que si le wokisme, c'est conforme à la définition de Martin Luther King, je pense que non seulement on le partage, mais on doit faire tout pour le promouvoir. Il y a une chose intéressante. Hein. Bernice King, qui est la fille de Martin Luther King, a pris la parole. Ils ont la trouille, hein, les Américains. Il ne faut pas oublier, ils ne sont pas tranquilles. Elle dit « Nous vivons à une époque où la rhétorique anti-woke est devenue une arme pour nous diviser et nous détourner des vrais problèmes d'injustice. » Et c'est ce qu'elle a balancé au cours d'un meeting. Et elle dit « Être woke, c'est être conscient de l'oppression et s'engager pour la justice. » Ça, c'est la position de Martin Luther King. Et bien sûr, nous, lutter contre l'oppression, on l'a toujours dit. Ça a toujours été notre fonds de commerce et s'engager pour la justice aussi. Mais il faut voir, elle, de quel wokisme elle parle. Elle, c'est celui de la reconnaissance des droits des Noirs. Quand Martin Luther King a fait promouvoir des lois, c'était pour ça. Des lois qui concernent les Noirs, les pauvres, la lutte contre les discriminations et les programmes sociaux dont Trump a expliqué tranquillement qu'ils allaient passer à la trappe. Et on peut citer de temps en temps même un curé ou quand il dit des choses intéressantes. L'évêque William Barber II, je ne sais pas pourquoi II, qui est coprésident de la campagne des pauvres aux États-Unis, il dit « Peu importe qui vous êtes, si vous remportez 60% des voix, vous n'obtiendrez jamais un mandat pour violer la justice. » Et ça me paraît intéressant parce que Trump dit « Ça y est, mais nous, on a 60%, on fait ce qu'on veut. » Or, on ne fait pas ce qu'on veut, même quand on a gagné une élection, c'est très clair. On ne gagne jamais un mandat pour faire du mal aux gens, dit cet évêque, et il a bien raison.
Enfin, on ne fait pas ce qu'on veut quand on a gagné une élection, si on est un démocrate et qu'on respecte les institutions démocratiques. Or, c'est justement ça qui peut quand même nous faire peur concernant Trump, mais peut-être pas que lui.
Parce que ce que disait Martin Luther King, j'ai repris la citation, « Il faudrait que les Américains blancs se sentent plus proches des Américains noirs et s'engagent dans une solidarité économique et sociale pour que les choses changent. » Eh bien, précisément, on voit bien la ligne de Trump. C'est du darwinisme social. C'est-à-dire que le meilleur gagne. La solidarité, tout ça, Ça n'existe plus. Et c'est les tests suprématistes de Trump qui reprend du suprématisme blanc. Alors, c'est pour ça que c'est un débat complexe, parce que moi, je pense qu'il faut lutter contre le wokisme, mais contre une forme de wokisme. Parce que, précisément, le combat initial a été totalement détourné.
Bah, on peut peut-être rappeler, on l'a pas dit, que ça vient du verbe woke, anglais, qui veut dire être éveillé,
to
en fait.
Hein,
être éveillé, et qu'on le trouve dans d'autres formules, même avant Martin Luther King, qu'on le trouve dans des textes qui évoquent justement l'esclavage et la condition afro-américaine dès la fin du 19e, ouais. Et qui avait l'expression, je me souviens, on avait écouté la chanson, je crois, une fois dans Raison Gardée, une chanson qui date de 1938, une chanson de blues, qui évoque les garçons noirs américains accusés de viol qui avaient été condamnés à mort par un jury entièrement blanc. Donc cette chanson de blues, elle évoquait cette histoire, et il y a une phrase dans laquelle il est dit: le mieux c'est de rester éveillé, de garder les yeux ouverts. C'était vraiment rester éveillé devant les injustices faites en particulier aux noirs à ce moment-là. Et effectivement, Martin Luther King, dans plusieurs de ses discours, reprend ce mot pour bien dire sûr qu'il faut être éveillé, demeurer éveillé, pour être capable de mener à bien cette révolution sociale qui, pour lui, était aux États-Unis la lutte pour les droits civiques.
D'autant que je rappelle une citation que dont j'avais parlé, on l'attribue à 4-5 personnes différentes comme d'habitude. En gros, ce ne sont pas les mauvaises gens qui abîment la société, c'est le silence des braves gens. Et ça, c'est bien le problème qui est posé aujourd'hui. Alors, en tout cas, moi, je voudrais rendre à César ce qui appartient à César. C'est un ami qui s'appelle Bernard Kerdraon, qui a fait une conférence. J'ai assisté à cette conférence. Il m'a envoyé son texte, d'ailleurs. Et je trouve que l'exorde de ce texte-là dit à peu près tout ce qu'il veut, tout ce qu'il pense, lui, du wokisme. Je vous la lis parce qu'elle n'est pas très longue, mais c'est intéressant. Il dit « Le sens des mots évolue ». Hein, on le sait, hein, puisqu'il y a des mots qui n'ont plus du tout le même sens. Avec les idées qu'ils transmettent, c'est surtout ça. Des intellectuels nord-américains ont perverti le sens initial du rêve de Martin Luther King pour faire du mot « woke » une idéologie de segmentation de l'humanité. Ça, c'est un élément très intéressant. Une segmentation de l'humanité en groupes sociaux intangibles, s'opposant de fait à l'universalité, et ça nous dit quelque chose, l'universalité qui nous engage avec l'amélioration matérielle et morale de l'humanité par l'ouverture à l'autre, en pervertissant les principes qui rend possible cette amélioration, la laïcité. Ce type-là, c'est un défenseur de la laïcité. Et il termine en disant « Relayé en Europe, importé en France à la faveur des colloques interuniversitaires, l'idéologie woke gagne des adeptes sur les campus, les citoyens, les politiques. » Et c'est tout à fait intéressant le débat qu'engage Bernard là-dessus, parce qu'il permet de comprendre la complexité de cette problématique. Hein. Il a eu une contradictrice, on dit maintenant, qui a dit à un moment qu'elle était, elle dit, mais si je comprends bien, vous êtes contre le décolonialisme, vous êtes contre la défense des minorités. Et lui dit, c'est invraisemblable de dire ça. Cette citoyenne soutenait avec force, dit-il, qu'on ne saurait prétendre être laïque si on n'adopte pas cette idée de décolonialisme, de déconstruction, de la cancel culture, on en parlera un petit peu tout à l'heure, hein, de l'intersectionnalité, moi je ne connaissais pas trop, hein, bref, de l'idéologie woke telle qu'elle nous est proposée aujourd'hui. Voilà. Et ce n'est pas nous qui nions l'existence de ségrégation, de discrimination dans nos sociétés modernes.
Oui, l'intersectionnalité, c'est une manière de désigner le croisement des discriminations, en fait.
Oui.
Et donc, porter un combat intersectionnel, c'est vouloir porter un combat qui prend en compte, justement, différentes discriminations. Par exemple, être femme et noire, et donc porter un discours sur à la fois la situation des femmes et la situation des noirs, et donc en associant les deux questions.
Il y a pire, on peut être femme, noire, lesbienne, et puis encore d'autres choses. Ce que dit Bernard, et là-dessus il a raison, c'est que c'est un moyen qu'on a trouvé de découper les gens en petits morceaux et d'oublier ce que ça a d'universel. On est, nous, alors, on est des défenseurs de l'idéal républicain. Hein. L'idéal républicain, c'est le vivre ensemble. C'est pas nier les
différences.
Les différences. Mais c'est faire en sorte que les gens puissent vivre ensemble. Or là, cette segmentation, elle finit par tous, par séparer les gens, par les opposer en plus. Mmh. Et quand on le voit d'ailleurs, parce qu'il y a des discours qui sont haineux en ce moment à ce propos. Mais à propos du décolonialisme, puisque tu parlais de la statue de Bijars tout à l'heure, ça c'est intéressant. Si demain on allait dans ce sens-là, il faudrait déboulonner les statues de Victor Hugo, les statues de Voltaire et les statues de Ferry. Je prends ces trois exemples-là rapidement.
Oui, et je te dirai pourquoi je ne suis pas d'accord concernant la statue de Bijars en particulier. Mais vas-y. Oui,
non, mais moi, attention, la statue de Bijars, elle n'était pas plantée. Moi,
exactement,
j'étais contre.
Voilà, c'est pas la même chose. Aujourd'hui, c'est qu'en 2024, on décide de la mettre dans l'espace public. Ce n'est pas la même chose d'avoir
même chose.
Un regard plus éclairé, pour reprendre l'exprès le mot woke, un regard plus éclairé sur ce qu'ont été des gens que pourtant on porte au nu, qui sont nos grandes figures républicaines, et qui pourtant, avec notre regard aujourd'hui, peuvent être, peuvent révéler leurs erreurs. Enfin, quand on regarde tous leurs textes de manière objective, voilà, on est obligé de constater qu'on n'est plus d'accord sur tout.
Ce qu'on reproche à Hugo, par exemple, c'est quand même pas grand-chose par rapport à son œuvre. Il a eu quelques paroles assez maladroites sur les Noirs, c'est le moins qu'on puisse dire. J'en ai lu une, ça m'a un petit peu peiné, parce que moi je suis un amoureux de Victor
Hugo. Même sur
Hugo.
La colonisation en Algérie, vraiment fait des discours contre la misère, en disant que les Français, il y avait des terres entières qui les attendaient en Algérie, et qu'ils pouvaient y aller pour avoir des terres pour se nourrir, oubliant un petit peu qu'il y avait en Algérie des Algériens.
Déjà, et en plus, Ferry... Dans la même perspective, Ferry, c'est l'école laïque gratuite obligatoire. Et ça, c'est une icône pour nous. Et ça, je pense qu'il faut vraiment ne pas faire défaut dans la défense de Ferry. C'est en même temps un colonialiste pur sucre. Je me souviens avoir vu une caricature où on voyait la Camarde portée par des gens en armes. Et c'était marqué « Ferry Tonkin ». Parce que Ferry, c'était aussi Ferry Famine. Hein, je ne sais pas si on se rappelle de ça. C'était au cours de la Commune. Parce que c'est lui qui gérait les problèmes d'approvisionnement. Et Voltaire, par exemple, quand on dit Voltaire était antisémite, il a quelques propos antisémites, certes. Il faut d'abord replacer ça dans son contexte. Mais Voltaire, pour moi, c'est la lutte pour défendre le chevalier de la barre, Sir Vane, etc. Et puis c'est sa prière à Dieu, d'ailleurs, qui est remarquable. Hein. Le problème, simplement, parce qu'on ne peut pas être trop long là-dessus, mais ce que je voulais dire, c'est que au lieu de déboulonner des statues, on devrait au contraire en faire des supports pédagogiques. Moi, je me vois très bien, un enseignant venir devant une statue de Ferry expliquer tout ça.
Alors, c'est ce qui est fait à Nancy par des professeurs autour de la statue du sergent Blandan. Sergent Blandan à Nancy. Voilà. Il y a tout un travail mené par des professeurs avec leur classe et qui vont bientôt installer des documents pédagogiques à destination de tous les passants pour savoir qui était ce sergent Blandan qui est lié au début de la colonisation française en Algérie. Puisque là, effectivement, on ne parle pas de déboulonner la statue ou de débaptiser les rues. Cela dit, enlever des statues et c'est un sujet qu'on avait déjà un peu abordé ensemble, mais débaptiser des rues et déplacer des statues, ça s'est toujours fait aussi. Enfin, je veux dire, la place Stanislas ne s'est pas toujours appelée place Stanislas.
Oui, ça s'appelait
des places royales qui sont devenues des places de la République, il y en a quand même une tripotée. Donc, why not?
Non, mais je voudrais aussi revenir quand même sur Bijars. Qu'est-ce qu'il a fait de positif par rapport à Ferry, à Hugo? Là, bien sûr qu'il faut peut-être faire du tri, mais qu'est-ce qu'il a fait de positif à part défendre les biens des propriétaires terriens? En Indochine, c'était Michelin. En Algérie, c'était les marchands de pétrole. Et les propriétaires, les colons, tout ça. Qu'est-ce qu'il a fait de positif, exactement?
Non, mais Ferry a torturé personne. Hugo n'a torturé personne. Et Voltaire non plus. Il faut aussi replacer un peu les choses.
Bien sûr que c'est toujours pareil. Il faut remettre les choses dans leur contexte de l'époque. Et on ne peut pas valider le colonialisme, c'est certain, puisque ça s'est toujours fait dans la violence et la spoliation des populations qui étaient là depuis des millénaires. Hein. Voilà, donc ça on ne peut pas le valider, ça. Parce que, à l'époque, l'expansion colonialiste était, pour l'Europe et les capitalistes de l'époque, une façon de s'enrichir à bon compte.
Et comment?
Et j'ai retrouvé une citation d'un ancien ministre de l'Éducation nationale. Alors, ils sont si nombreux, on a quand même eu 6 en 2 ans que celui-là, on ne peut pas l'avoir oublié. C'est Jean-Michel Blanquer qui a contribué à faire sauter l'Observatoire de la laïcité, qui était une institution remarquable sur la question de la laïcité, qui lui fait partie de ce qu'on peut appeler les anti-woke. Mais après, ce sont des étiquettes qui sont gênantes parce qu'en fait, on peut se les envoyer à la figure. T'es woke, t'es anti-woke, etc. On ne sait plus très bien de quoi il est question. Mais quand on écoute ce que lui lui disait, quand il s'en prenait à ceux qu'il appelait justement les wokistes, on comprend bien quand même son sous-texte. Hein. Il disait par exemple, ces mouvements, parlons des wok, hein, sont une profonde vague déstabilisatrice pour la civilisation. Mais qu'est-ce qu'il met derrière ce défini, la civilisation? Quelle civilisation? Ils remettent en cause l'humanisme, issu lui-même de longs siècles de maturation de notre société. Donc, ce qui est reproché à ceux qui se disent anti-woke, c'est que bien souvent, ils ont quand même un regard très ethnocentré, avec une petite coloration très discriminante,
nationaliste
et puis très souvent raciste, en fait.
Bien sûr.
Donc, c'est vrai que là, on manipule un mot comme souvent. C'est un peu comme quand on s'envoie à la figure des étiquettes, facho, etc. On finit par plus très bien savoir ce qu'on veut dire avec ces mots-là. Et ça me fait une super transition pour ma deuxième pause musicale. C'est Renaud. Elle est facho.
Elle revient de la fête de l'humain. Dans tous les stands du parti, des posters de Che Guevara. L'on a eu sa dose aujourd'hui. Faut dire qu'elle serait plutôt de l'autre côté du drapeau. Plus CIA que KGB et plus Pinochet qu'Allende. Faut dire qu'elle est con comme un veau. Elle est facho. Et ouais, elle est faite populaire. Après tout, c'est pour tout le monde. C'est pas écrit sur son imper qu'elle adore la bébête immonde. Vaut mieux car dans cet univers, elle pourrait bien se faire tondre. Ça serait dommage car sa crinière de cheveux blonds, elle en est fière. Ariel jusqu'au fond des yeux, ça détonne dans sa banlieue. Elle aime aussi sa blanche peau. Elle est facho. Elle voit partout les bolcheviks, elle imagine des complots contre l'ordre, contre les flics, contre l'église et le drapeau. Elle voue une haine chronique à la télé et aux journaux. Elle conchit les politiques, les jeunes qui vont à volo, et les mœurs pas très catholiques, et les pédés et les bigots. Elle rêve d'un ordre nouveau. Elle est facho. Surtout la nostalgie du sabre et du goupillon. De la nation, de la patrie, débarrassée d'immigration. Dit que l'ancien temps était béni, comme disent la plupart des cons. Regrette le temps des colonies, la peine de mort légalisée. De l'avortement interdit, et maudit les jeunes filles voilées. Et elle lit National Hebdo, elle est facho. Peut-être qu'un jour, si elle a un môme, il se retrouve à 18 balais, plein d'éducation et de diplômes, d'idées rebelles, d'humanité, et qui lui disent tes vieux discours, manquent singulièrement d'amour. Qu'il rajoute à la triste dame, reste donc le nez dans ta merde, je suis amoureux d'une musulmane, je vote écolo et je fume de l'herbe. Espérons que ça lui fera la peau, à la facho. Espérons ça lui fera la peau, à la facho qui vote Sarko.
RCN, raison gardée, avec la libre pensée de Meurthe-et-Moselle.
Oui, vous êtes bien sûr RCN dans Raison gardée et nous parlions avant cette pause musicale de la question du wokisme. On en parlait entre nous aussi pendant tout en écoutant la chanson. Est-ce qu'il faut avoir peur des woke? Je continue à penser que c'est surtout un mot qu'on envoie à la figure de son adversaire quand on veut faire taire ces revendications en matière d'égalité, de reconnaissance de l'histoire coloniale, de sa lutte contre l'oppression. Mais toi, Jean-Claude, tu me dis que tu y vois quand même quelque chose de dangereux par rapport aux idéaux républicains.
C'est les dérives qui sont dangereuses. Regarde par exemple le MeToo, par exemple. Bon, ça a été quelque chose de fondamental. Ça reste quelque chose de fondamental. Mais on a vu aussi les dérives qui ont suivi. Et là, c'est un peu pareil. La décolonisation. Prenons cet exemple en 10 secondes. C'était une saloperie. On est bien d'accord. On considère qu'on a été asservir des gens, qu'on les a exploités. On l'a fait militairement.
Convertir.
Convertir, en plus, hein, bien sûr. Mais en même temps, ça ne sert à rien de nous ressasser ça sans arrêt. D'abord, nous, on n'en est pas responsables, toi et moi. Je te signale quand même que c'est de l'histoire ancienne. Ce qu'il faut, c'est en faire une utilisation pédagogique. C'est ça que je pense.
Oui, mais l'air de rien, peut-être que pour toi, c'est quelque chose qui maintenant est tout à fait évident et acquis, mais ce n'est pas le cas de tout le monde.
Non, mais c'est pour ça qu'il faut faire de la pédagogie, précisément.
Ouais, mais,
et les enseignants ont cette responsabilité.
Oui, mais le processus, il est long et le caractère très revendicatif que peuvent avoir, certains discours, moi je le comprends aussi parce qu'il faut déconstruire, j'aime pas trop ce verbe-là, mais il faut quand même lutter contre des dizaines et des dizaines et des dizaines d'années d'une pensée, des siècles, de racisme, voilà, qui sont quand même profondément ancrés chez encore beaucoup de personnes. Me semble-t-il.
C'est encore dans les mœurs, ces personnes-là sont très âgées, mais aux funérailles des petits Bretons, là, il y avait quand même des anciens de l'OAS. C'est quand même pas rien.
Oui, bien sûr.
Ah oui, mais ils sont là, mais ça diffuse. Ils diffusent toujours.
Non, mais ils sont pas tous. Moi, au contraire, je trouve qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont embarqués par manque d'assurance dans leur vie, par peur, par. En fait, quand on voit ce qui se passe, effectivement, quand on regarde le rassemblement de l'extrême droite mondiale autour de Trump au moment de son investiture. Franchement, ça donne des frissons de trouille, quoi. Ce sont des jeunes gens, hein. C'était pas un ramassis de grabataires autour de Trump.
Surtout les déclarations, moi j'appelle ça des déclarations de guerre de Trump. Reconquérir Panama, envahir le Groenland.
Le Canada pas envahir.
Non mais, c'est qu'est-ce qu'il disait Hitler en 1933?
Tiens, le salut hitlérien d'Elon Musk, dont certains font semblant de ne pas comprendre ce que c'est.
Quand t'as un Milley complètement à la masse. Le taux de chômage explose en ce moment en Argentine. C'est quand même, on peut parler, ça diffuse tout le temps, malheureusement.
Bah, ça au minimum, c'est du néocolonialisme, hein, s'il s'en prend au canal de Panama, c'est moins qu'on puisse dire.
Il va me débaptiser le golfe du Mexique pour l'appeler le golfe américain. Non, mais...
mais je crois que c'est pour... En fait, pour moi, les détracteurs des woke ou des wokistes, ce sont ceux qui veulent, avant même que les gens aient le temps de développer leur pensée, discréditer leur combat, parce que eux, justement, ils sont partis là en marche guerrière contre plein de minorités. Ils ont, pour des raisons économiques. Décider d'aller s'imposer dans de nouveaux pays, imposer leur économie, exploiter la terre entière. On voit comment Trump se retire des accords climat, c'est extrêmement grave. Et donc, je crois que le mot woke lui-même, en fait, il est complètement vide en réalité, je pense. Après, on est d'accord que nous, on est très attachés. Et ça me faisait penser, on en parlait tout à l'heure, Jean-Claude, à ce qui s'était passé en France quand une troupe qui s'appelle la troupe des Modocos, qui travaille à la... c'est une troupe qui est menée depuis des années par un professeur de la Sorbonne et qui essaye de proposer des spectacles qui restituent ce que pouvait être le théâtre tragique grec tel qu'il se jouait dans l'Antiquité. Ils font des recherches sur l'accompagnement musical, les danses, etc. Et pour une pièce qui s'appelle Les Suppliantes, qui met en scène des jeunes femmes qui fuient un mariage forcé et qui viennent d'Égypte, elles portaient des masques avec des peaux noires. Et donc il y avait justement certains groupes qui avaient dit c'est du blackface, c'est honteux de faire ça en France aujourd'hui, etc. Un peu par ignorance de toute la démarche culturelle qui était derrière ce spectacle. Donc là, effectivement, on peut s'alarmer. Quand l'idée est de faire interdire totalement des conférences, tu parlais de cancel cancel culture. Voilà. Et effectivement, il faut y regarder de près, être très soucieux de la liberté d'expression. Voilà. Mais j'ai l'impression que ce sont quand même de petits phénomènes par rapport au vrai problème qui est ce retour de l'extrême droite et de tout ce qu'elle porte de mortifère pour beaucoup de personnes.
Mais comme je le disais au début, mal nommer les objets, c'est ajouter au malheur du monde. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il faut revenir. Ouais. Je pense que ce genre de problèmes sont toujours plus complexes que la façon dont on les expose. Et le problème du wokisme est un problème complexe. Mais justement, j'ai souvent le mot pédagogie à la bouche parce que je pense que, moi, le souvenir que j'ai, moi, de l'école que j'ai fréquentée, c'était ça. C'est là, même quand on était gosse, qu'on nous faisait rentrer déjà dans la tête, mais pas en forçant, les grands principes de la République. C'était quoi, souvent, les leçons dites de morale ? Et, bon, un peu imité, d'ailleurs, des principes des 10 commandements. Mais en même temps, c'était une façon de nous intégrer, de nous faire comprendre qu'on faisait partie d'une république laïque, indivisible, d'ailleurs, et ce n'est pas un hasard. Et en plus, nous, là-dessus, on peut ajouter une dimension universaliste. C'est strictement l'inverse de ce qu'on voit aujourd'hui avec un certain, enfin avec certains volets du wokisme, c'est clair.
Le nationalisme, c'est une plaie hein, en soi pour moi.
Ah bah oui.
Mais c'est comme les formules, le politiquement correct, on peut plus rien dire. En fait, c'est un discours qui est vide, quoi. On n'a jamais autant entendu les horreurs de l'extrême droite qu'aujourd'hui, et ils ne cessent de dire on peut plus rien dire. Quand on n'est pas d'accord avec eux, ils disent c'est du politiquement correct, mais ça veut dire simplement c'est le contraire. Enfin, au fond, ils avouent eux-mêmes qu'ils savent qu'ils ne sont pas politiquement corrects, peut-être. Mais voilà, moi, ces étiquettes-là, effectivement, tu le disais, on les utilise ou on les entend sans trop comprendre ce qu'il y a derrière. Je crois qu'il faudrait essayer de s'en libérer complètement, en fait, peut-être.
Bon, la plupart disent qu'on monte. On ment. On dit des bêtises. On défend des choses qu'on n'a rien compris à la vie.
Tu vois, le terme déconstruction, pour moi, il a du sens. Mais pareil, il ne faut pas y mettre n'importe quoi. Le travail des historiens, la science de l'histoire, la science de la construction historique a beaucoup changé en l'espace d'un siècle, et notamment depuis 1950-60 avec l'école des Annales. Mais heureusement, regardez ce qu'on nous raconte, nous, en Lorraine. On est Lorrain. Quand on voit les tableaux de la Lorraine qui tenait l'Alsacienne comme ça, serrée contre elle, pleurant en regardant la cathédrale de Strasbourg. C'est intéressant.
Place Maginot.
Oui, Place Maginot notamment. Mais là, c'est une sculpture d'ailleurs. Mais il faut essayer de rétablir la réalité historique. Quand on montre les Alsaciens pavoisants avec des drapeaux français au moment de la libération en 18, mais on sait très bien qu'on a envoyé des dizaines de milliers de drapeaux français, qu'on leur a distribués. Et d'ailleurs, on a vu à la suite les décisions gouvernementales qui ont fâché largement les Alsaciens. Mais si on regarde l'image qu'on nous a donnée, c'est une image d'Épinal. Et de l'autre côté, il y a la même image d'Épinal chez les Allemands.
Oui, je ne sais pas comment on est venu à parler de l'Alsace.
Parlons du concordat, tiens.
Parce que c'est l'illustration, à mon avis, de ce que il y a une nécessité de temps en temps de déconstruction parce que l'histoire a été fabriquée par des gens dont les intérêts ne sont pas toujours neutres. Voilà.
Oui. C'est-à-dire qu'il y a une propagande qui s'exerce tout le temps, et la multiplication des médias, des réseaux en ligne, des réseaux sociaux, etc., facilite justement et accélère cette propagande, mais dont les mécanismes sont toujours les mêmes. Quant à l'utilisation de la langue, alors pour nos auditeurs qui n'auraient pas encore lu 1984 de George Orwell, j'invite vraiment à cette lecture. Oui, relire ce roman aujourd'hui, je trouve ça assez... assez terrifiant. Alors c'est vrai qu'on arrive vers la fin de l'émission, on n'a pas eu le temps de parler plus avant de rappeler quelques petites choses sur la loi de 1905. J'avais dit qu'au long de l'année, on y consacrerait un petit peu de temps dans nos émissions, mais ce n'est pas grave, on en parlera une prochaine fois. Tu nous parlais de l'Alsace, la question de la séparation des églises et de l'État en France ne concerne pas exactement l'Alsace et la Moselle parce qu'elles n'étaient pas dans le giron français au moment de la promulgation de cette loi. On aura l'occasion d'en parler. Alors, je finis par mon petit conseil lecture avant notre petite chanson de fin. Vous me direz, les copains, si vous avez une idée là, qui vous vient tout de suite, mais il y a un ouvrage que j'aime bien de Jean-Paul Scott qui s'appelle « L'État chez lui, l'Église chez elle », qui est une citation de notre brave Victor Hugo avec un sous-titre « Comprendre la loi de 1905 ». C'est un ouvrage qui date un peu et qui est régulièrement réédité. Je crois que la toute première édition, je vous dis ça tout de suite, c'était 2005, donc c'est un ouvrage qui a 20 ans, qui a été réédité dernièrement et qui est très intéressant, qui resitue dans son contexte justement la promulgation de, et les combats pour faire promulguer cette loi de 1905 et qui remonte aussi un peu en amont sur le combat des Lumières, sur le concordat de Napoléon et puis sur... alors il y a aussi des chapitres très intéressants sur la pression de l'opinion publique. Alors là, ça fait le lien avec notre débat tout à l'heure sur la fin de vie. Donc, enfin, la société va quand même plus vite, aspire plus vite à des changements porteurs de liberté et de respect des individus et des différences que nos hommes politiques qui sont parfois fort, fort frileux. Charles, tu me montres et tu conseilles à la lecture... Le Monde diplomatique, son numéro de manière de voir qui porte sur l'antisémitisme et ses instrumentalisations. Ah bah oui, là aussi. En vente.
En revente dans toutes les bonnes
maisons. Les bonnes épiceries des journaux. D'accord, très bien. Merci pour ce conseil de lecture. Allez, il nous reste juste quelques minutes pour finir en chanson avec une petite musique qui réveille des sales majestés. C'est la chanson Camarade. Bonne fin de journée à tous et à très bientôt dans Raison Gardée.
Il faut qu'on apprenne à partager. Pas d'autre choix pour vivre en société. Retrouve un peu d'humanité.
Come on.
Quel que soit ton pays, ta couleur.
Come on.
On a partout sur terre droit au bonheur.
Come on.
Camarade.
Come on.
Camarade.
Come on.
Camarade.
Come on.
Camarade. Aimer son prochain rapporterait.